Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Le Book Club de Beurre FM, l'émission qui parle des livres avec ceux qui les écrivent à ceux qui les lisent. Bon dimanche à tous, je reçois aujourd'hui Sabri Louata. Ça fait plaisir de vous voir. On dit que le désir vient du manque.
Le désir vient du manque?
Ouais,
exact. Je suis pas d'accord avec ça.
C'est pas vrai?
Non. Je crois que le désir, au contraire, c'est un trop-plein. Je crois pas. Il y a deux définitions du désir. Moi, je préfère la définition où c'est un excès d'énergie, un excès de. Ça va, je parle pas dans le micro.
Si, si, vous êtes bien.
Voilà. Plutôt que. C'est vrai, le désir qui viendrait du manque, ça veut dire que le désir, c'est juste une frustration, en fait.
Exactement.
Bah, moi, je suis pas d'accord. Le désir, c'est une création. Pardon, je sais pas pourquoi on parle de ça.
Pour dire que je vous ai attendu, première fois que je vous ai reçu, c'était le 4 janvier 2012. Vous êtes venu ce jour-là nous présenter le premier tome de Les Sauvages. Voilà. Ça fait combien de pages en tout, Les Sauvages ?
1500.
1500 pages.
Voilà. 1500 pages et ça fait 6 fois 52 minutes de télévision, puisque je l'ai adapté en série télé.
Voilà, qui est passé à Canal+, c'était l'événement de la rentrée d'ailleurs. On en reparlera tout à l'heure, mais si vous êtes là aujourd'hui, c'est pour nous parler de 404, votre nouveau roman aux éditions Flammarion Versilio. Alors 404, on connaît la Porsche des immigrés, la Peugeot 404.
La 404 bâchée.
Ouais. Vous avez connu ça, la 404
je suis pas moi.
Que, ouais, parce non. Que vous êtes un peu jeune pour avoir connu la 404.
Je suis plus aussi jeune que la dernière fois, mais c'est un petit peu la définition du temps. Donc, mais j'ai pas connu. Moi, je suis né en 83. Donc, je crois que les 404 bâchés, c'était vraiment les années.
C'était la fin.
Ouais. Mais par contre, dans ma famille, il y avait des gens qui en avaient.
Ouais.
Et c'est surtout des souvenirs que j'utilise dans le roman, un peu pour marquer les générations. C'est-à-dire quand je dis 404 aux gens, les gens d'une certaine génération pensent à la Peugeot. Et les gens d'une autre génération pensent à Internet, l'erreur 404.
L'erreur 404.
Quand on cherche une page et qu'on la trouve pas.
Mmh. Et ça date finalement.
Ouais.
Ça vous date. Quand vous êtes venu en janvier 2012, il n'y avait pas autant finalement les réseaux sociaux, l'Internet, les smartphones. C'était vraiment les balbutiements.
Oui, c'est vrai. C'est un peu émouvant quand même pour moi d'être ici, je dois le dire. Parce que c'est la toute première émission que j'ai faite, que ce soit radio, télé, machin. Et je me souviens, j'étais très intimidé, c'était la première fois que je parlais en public. Et vous m'aviez vraiment mis à l'aise, c'était très, très bien passé. Et ça m'a donné confiance pour la suite. Et je me souviens, vous m'aviez dit, on s'était serré la main après l'émission, et vous m'aviez dit, vous allez aller loin avec Les Sauvages, vous allez faire de la télé, tout ça.
C'était énorme, énorme. Et ce livre-là, moi, c'est le livre que j'ai le plus offert
c'est vrai.
Aux gens. Et pendant des années, je leur disais, voilà, il faut lire ça. Parce que ça a pris un peu de temps quand même à prendre, ça n'a pas été immédiat. Ça.
Non, j'ai pas eu un succès fulgurant, pas du tout.
C'est vrai que ça.
J'ai eu un succès qui s'est construit lentement.
Voilà, c'est ça.
Et qui n'est pas un succès. Je suis très heureux, moi, d'avoir écrit les romans pour faire exister la famille, l'année rouge, pour faire exister ce président, le Chaouche.
Chaouche, attends.
Mais j'étais encore plus heureux, c'est-à-dire, quand j'ai réussi à. La série était beaucoup plus difficile à écrire, ça prend beaucoup plus de temps, c'est beaucoup plus d'énergie. Je l'ai écrit avec la réalisatrice Rebecca Zlotowski. Voir Roche Dizem incarner le président de la République, juste montrer l'image, que cette image, elle soit dans la rétine de millions de gens, tu vois. Et comme la série, elle a super bien marché. Ça, je dois dire que c'était un vrai. Ça valait le coup de passer toutes ces années un petit peu à travailler en coulisses.
Et quand vous l'avez vu, finalement, est-ce que ça correspondait à ce que vous auriez pu rêver? Non, ou c'était vraiment très très différent.
Non, moi j'ai coutume de dire que j'ai écrit trois romans, que j'ai écrit Les Sauvages, que j'ai écrit Les Sauvages en série, et que j'ai écrit 404, mon nouveau bouquin. Donc pour moi c'était presque un deuxième roman. C'était une trahison du matériau d'origine, parce qu'on pouvait pas raconter la même histoire. Il fallait d'un coup un petit peu réassembler tous les éléments, conserver l'âme du projet, son élan et surtout son énergie. Le côté un peu romanesque, palpitant, ça je voulais que ça reste, que les gens ils soient accrochés à leur écran, comme les gens ils avaient été quand même un peu accrochés au bouquin, ceux qui l'avaient aimé en tout cas.
Moi je me disais, enfin à l'époque je me disais c'est un peu le parrain Kabyle, finalement
c'est ça, trouver des personnages plus, ce qu'on adore tous dans les films américains, dans la culture américaine, c'est qu'il y a des héros un peu, des gens qui sont plus grands, comme on dit en anglais bigger than life, ils sont plus grands que la vie même, qu'en fait on les rencontre même pas vraiment dans la vraie vie, mais qui sont mieux que nous, Et c'est ça qu'on aime bien regarder, je crois. Et comme Le Parrain, ces gens, tout d'un coup, c'est pour des petits immigrés italiens qui sont vus comme des mafieux, qui sont vus de haut, en gros, par les Américains blancs normaux, tout ça. Normaux, je veux dire, anglo-saxons, tout ça. Les petits Italiens, ils étaient vus comme des petits mafieux, comme des petits voyous. Et d'un coup, ils avaient des personnages de mafieux magnifiques. Donc d'un coup, ils avaient de la fierté de voir qu'ils étaient incarnés à l'écran par des gens bien habillés, qui avaient des bonnes postures.
C'est qui le héros de 404? Alors, est-ce que c'est Mehdi, le beau gosse? Est-ce que c'est Kader? L'arriviste. Est-ce que c'est Ali, le héros qu'on voit pas en soum-soum? Est-ce que c'est Alia? Bien faite dans sa tête, bien faite dans son corps.
Bien faite dans son corps.
La chercheuse.
La polytechnicienne.
Ouais, c'est qui le héros du livre, finalement? Moi, je dirais Kader, mais après...
Mais c'est intéressant. Le héros du... En fait, le roman, il commence avec un type qui est amoureux secrètement d'une meuf. Cette meuf, c'est Alia. Mm. Et donc, au début, on croit que c'est Alia l'héroïne. Mm. Et pendant longtemps, la moitié du bouquin, à peu près, c'est Alia. On suit ses projets. On la suit à travers le regard amoureux d'un type qui est amoureux transi, en fait. Il sera jamais avec elle. Il le sait, au fond de lui. Et ça le ronge et tout. Mais il a besoin d'être auprès d'elle. Comme quand il est obsédé, en fait, par elle. Voilà. Donc, d'un coup, on voit un personnage.
Parce qu'il est obsédé dans ce sens où il la traque sur Internet. Ouais, ouais. Il demande ses amis sur Facebook.
Ouais, il fait plein de trucs.
Sur 20 ans, il la traque.
Ouais. Ça fait 20 ans qu'ils se sont pas vus et ils vont passer une soirée ensemble. Ouais. Donc, il est vraiment au début de l'histoire. Donc, il est vraiment obsédé par elle. Et après, au fil du roman, il y a un nouveau personnage qui apparaît. Un de leurs anciens camarades de classe, quand ils étaient tous ensemble en prépa à Lyon. Comme moi, j'ai fait une prépa littéraire à Lyon, au lycée du Parc, juste à côté du Parc de la Tête d'Or. Et c'est un lieu du roman et ils étaient trois, quoi. Il y avait Ali, il y avait Alia et il y avait Kader. Et Kader, c'est celui qui a eu la réussite la plus extraordinaire. Il est devenu milliardaire grâce aux bitcoins. Donc il a misé au bon endroit. C'était un investisseur qui travaillait pour des fonds d'investissement, qui a créé son propre fonds d'investissement, une réussite fulgurante à l'étranger. Et il revient en France avec, il veut faire de la téléphonie mobile. On se moque parce que...
C'est la téléphonie mobile.
Oui, mais les gens disent...
Vous lirez le livre, vous comprendrez.
Ouais, les gens comprendront.
Voilà.
En tout cas, c'est... Et au bout d'un moment, Kader, qui est un personnage donc de qui est une réussite fulgurante, mais avec un vrai esprit de vengeance, un peu. Ou plutôt un vrai esprit de revanche. Mm. Parce qu'il a été humilié. Hein. C'est un peu... Il a une théorie, lui. Il dit, les Algériens, on est broyés par la France. C'est-à-dire que la France, elle ne laisse pas dépasser. Dès qu'il y a une tête d'Algérien qui dépasse, elle est coupée. Donc c'est ce genre de discours qui tient et c'est ce qu'il croit, lui. C'est comme ça qu'il a vécu les choses. Et il a réussi sa vie aux États-Unis et maintenant il revient. Mmh. Et il revient avec une idée derrière la tête, avec un plan. Et c'est son plan. Et donc le vrai héros du livre, au bout d'un moment, c'est même pas Kader, c'est son projet, en fait.
Ouais, voilà, c'est son projet pour une région que vous connaissez bien, pour une ville que vous connaissez bien. Mais en tout cas, lui, il veut casser un autre projet, finalement. Le projet de ceux qui, finalement, les anti-musulmans.
Ouais, l'islamophobie. Lui, ouais. Ça se passe le roman se passe dans un futur un peu proche, qui est en gros 2022. Mm. Donc c'est suffisamment proche pour que ça puisse concerner tout le monde, et suffisamment loin pour que ça puisse me donner la liberté de raconter ce que je veux. Et donc, moi, ce que je veux raconter, c'est tout le monde dit ça va mal finir, les Arabes, la France, tout ça, l'islam, tout ça. On le sait, on sent tous que ça va mal finir. Et ben moi, j'ai voulu raconter comment ça va mal finir. Et en racontant comment ça finit mal, dans mon roman, c'est une tragédie. C'est-à-dire qu'en gros, c'est le pire qu'on puisse imaginer. C'est un cauchemar politique, en gros. Et en racontant comment ça peut mal finir, je crois qu'en fait, je fais paradoxalement du bien. Le roman a l'air pessimiste, mais en fait, je crois que ça fait du bien de bien voir les choses. Et j'ai l'impression de montrer des choses précises. Quand on est dans un cauchemar, tout ce qu'on peut, le mieux qu'on puisse demander, c'est d'avoir la vision précise de ce qui nous arrive. Mmh. Et je pense que j'ai réussi à faire ça dans le roman.
Vous n'aimez pas trop commenter l'actualité? Pourtant, vous en parlez, l'actualité. Enfin, d'une certaine façon, vous parlez beaucoup des élections, en tout cas. Les élections, c'est quelque chose que vous aimez.
Parce que c'est un moment romanesque, une élection. Il y a une attente, il y a du suspense, on ne sait pas ce qui va se passer. Et les gens, ils investissent des émotions, ils investissent d'eux-mêmes, beaucoup de choses. Mais non, le problème moi, c'est que moi, l'actualité, toutes les deux, trois semaines, il y a une nouvelle polémique où c'est contre les femmes qui portent le hijab, où c'est contre... des gens sur Internet qui se retrouvent pris dans un shitstorm Twitter, et d'un coup on parle que d'eux pendant 3 jours, et ça fait une lumière très très vive, et d'un coup qui s'éteint d'un coup, on n'en parle plus. Genre Mehdi Meklat, on en a parlé pendant
2-3 semaines. C'est l'ancien commentateur, en tout cas de Pascal Clark.
Ouais, c'était un chroniqueur de Pascal Clark, mais c'était aussi un artiste, un écrivain.
Voilà, un écrivain,
quelqu'un qui était bien vu, quoi, dans le milieu et tout, et beaucoup sur France Inter et tout, la gauche. Et d'un coup, il a été D'un coup, ça a été une descente aux enfers, mais genre une dégringolade brutale. 1 million de gens l'ont, parce qu'il avait tenu des propos antisémites, entre autres propos horribles, avec un personnage imaginaire, fictif, sur Twitter. Évidemment, la frontière entre le vrai et le faux, les gens n'avaient pas la générosité aussi de se dire peut-être que... Bon, enfin bref, j'ai un peu oublié l'histoire. Ce que je veux dire, c'est que d'un coup, on n'en a parlé que de ça, et d'un coup, ça s'est arrêté. Donc c'est ça l'actualité, c'est des lumières très très vives, qui s'éteignent d'un coup. Et moi, j'ai voulu raconter autre chose, une lueur. Quelque chose, plutôt suivre une lueur qui est de taille moyenne, mais qu'on a. C'est ça que donc ça m'intéresse pas à l'actualité. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a en dessous de l'actualité et ce qu'il explique en fait secrètement.
Et ce qui est marrant, c'est que chez vous, les Arabes sont plutôt de droite.
Ah ouais, vous croyez? Ouais. C'est marrant ça.
Ouais, c'est pas des Arabes de gauche. Ah, en tout cas, c'est pas la gauche caviar.
Attends, c'est marrant, j'avais pas réalisé. En tout cas,
ils sont pas chez Macron. En tout cas, ils sont pas chez Macron en tout cas.
Bon, Macron, c'est pas la gauche, hein. Enfin, Macron, c'est la droite.
Ah, pardon, excusez-moi. Ah non, mais oui, effectivement, alors si on déplace les curseurs comme ça.
Oui, ils sont d'extrême droite, donc non, c'est pas le cas.
La présidente, elle est du pays que vous imaginez, elle est clairement très à droite.
Non, mais attends, revenons sur cette question parce que c'est intéressant en fait. Je m'aperçois que c'est vrai.
Mehdi,
c'est
pour moi.
Kader, pas. Non, mais Mehdi, c'est autre chose. Mehdi, c'est un maire rural. Voilà. C'est-à-dire, c'est un médecin rural qui est devenu le maire.
C'est un bourgeois.
Mais non. Ah non, c'est pas un bourgeois, Mehdi. Non. C'est un notable parce qu'il est devenu maire.
C'est un notable, alors pardon, voilà.
Ouais. Mais c'est différent parce que bourgeois, ça voudrait dire qu'il est de la terre, qu'il est de la propriété, qu'il est des gens qui travaillent pour lui, qu'il est du patrimoine. Il a pas tout ça hein, quand même. Enfin, ça reste quand même un type qui s'est fait tout seul. C'est juste qu'au lieu de venir de Seine-Saint-Denis, il vient de la banlieue de Clermont-Ferrand, de la banlieue si loin qu'elle est presque un petit village. Donc en gros, c'est un type qui vient de ça, du Massif central.
Alors il a le look.
Non, il est beau, oui, ça c'est sûr qu'il est beau.
La
oui.
Look.
Il est beau,
pull en V, cachemire, la chemise Vichy, bon, ça fait quoi voilà.
Non, c'est vrai qu'il a un peu.
Il a pas la casquette Lacoste.
Non, mais il a l'élégance provinciale. Il a ce qu'il imagine être l'élégance. C'est-à-dire, c'est une vision déformée. J'ai beaucoup de mal à bien m'habiller. Et je sais ce que c'est, en fait, de croire qu'on est beau, bien habillé. Alors qu'en fait, on porte des vêtements qui disent exactement notre classe sociale. C'est-à-dire, les bourgeois nous regardent avec amusement après. Donc bon, bref, c'est pas un bourgeois, Mehdi.
En tout cas, moi, de ce que je lis, ils sont pas de gauche. Et tous, hein, d'ailleurs.
Non, mais c'est parce que, je vais pas mentir, je suis pas très de gauche non plus. Je suis pas.
Voilà, bon, bah.
Genre, je suis pas de droite, mais je suis pas de gauche. Genre, j'ai pas l'idée. Genre, les. Par exemple, là, c'est maintenant parce que non, par exemple, je suis sur Beurre FM. C'est rigolo.
Mehdi qui nous a fait parler de ça. Oui. Parce que clairement, lui, il était identifié dans un milieu qui était comme ça. Qui était plutôt, voilà. Alors, bobo de gauche, ça veut rien dire, mais c'était ça. C'était un peu c'était les bien-pensants.
Non, mais il y a un personnage qui est clairement de droite, c'est Kader, pour le coup.
Mais il est libéraliste, lui. C'est un libéral.
Bah, c'est un libéral. Ouais. Mais d'un autre côté, je pense que ça fait du bien. Je pense que ça fait du bien de temps en temps. Surtout quand on vient comme moi d'une famille genre très très pauvre. Ça fait du bien. De regarder la réalité en face. Je pense que l'avantage qu'ont les bourgeois, les enfants de bourgeois par rapport aux enfants de pauvres, et généralement les enfants de pauvres en France, c'est souvent aussi des enfants issus de l'immigration, cette idée comme ça que quand on a une fausse vision du monde, de la réalité du monde. Nos parents, ils nous font pas comprendre qu'en fait, le monde est en notre défaveur et qu'on n'aura pas les avantages qu'auront les autres. On part avec un handicap. C'est comme si on avait au début de la course, on a les chevilles lestées de poids, en fait. On s'en rend pas compte. Et après, quand on progresse dans la... Moi, je suis arrivé à Paris et j'avais autour de moi des gens qui avaient l'air de vivre d'amour et d'eau fraîche, qui écrivaient des piges dans des journaux, qui s'intéressaient à la critique de cinéma. Et je me dis, mais comment ils vivent? Et en fait, ils avaient hérité d'un appartement, par exemple. Donc, ça a l'air... Des gens qui peuvent hériter de trucs comme ça. Moi, ça me paraissait dingue. Genre, moi, j'ai hérité de dettes. Donc, je comprends pas l'idée de... En fait, qu'il y a des gens, tout est fait pour leur faciliter le truc.
Oui.
Donc, voilà.
Vous avez l'appartement de la grand-mère, vous avez, voilà.
Ouais,
vous travaillez pas le soir pour payer vos études, quoi.
Voilà. Et puis, il y a des réseaux d'entraide. Il y a du communautarisme, en fait. C'est du communautarisme qui est en la défaveur des fils de pauvres.
Sabri Louata est avec nous pour parler de 404. C'est son nouveau roman sur Beurre FM et c'est édité chez Flammarion et Versilio.
Le Book Club revient dans un instant. Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Et l'invité du Book Club, c'est Sabri Louata aujourd'hui à l'occasion de la sortie de son nouveau roman. Ça s'appelle Versilio. En fait, ça veut dire que quand on vous dit de ne pas faire un truc,
c'est dingue, hein.
Le cerveau ne comprend pas la négation.
Hein.
Ça s'appelle 404, ça c'est le nom du roman et l'éditeur c'est Flammarion. Alors, j'ai appris que vous souffriez d'une maladie très rare.
Hein? Non.
Si. Alors, si, c'est vrai.
Oh là là,
la misophonie.
C'est quoi la misophonie?
La misophonie, c'est les gens qui sont agacés quand les autres font des bruits de bouche.
C'est pas moi, oui, c'est un de mes personnages, oui.
Non, ah, c'est Ali. Il y a beaucoup de vous dans Ali quand même.
Oh, c'est dégueulasse, pas du tout, non.
Non ?
Non, un peu, je sais pas. Il y a un côté voyeur, un peu. C'est un voyeur, Ali, en fait.
Pourquoi il n'y a pas beaucoup de vous chez Ali ? Alors qu'il a quand même un parcours qui peut vous ressembler, en tout cas.
Non, moi, j'ai pas fait de cuisine, par exemple. Mm. C'est un de mes hobbies, mais j'ai pas fait. Lui, c'est un cuisinier. C'est quelqu'un qui a fait des études littéraires et qui l'a arrêté au bout d'un moment parce que ça menait nulle part. Et qui ensuite s'est reconverti dans la cuisine. Donc c'est pas mon itinéraire du tout. Mais c'est vrai. Par contre, bon, je mens en fait. C'est pas vrai.
Il y a l'amour de Lyon.
Il y a deux mois dans Ali.
Il adore Lyon comme vous et les Lyonnais.
Il vient de Saint-Étienne comme moi, ça c'est sûr. Je lui donne comme moi, il vient de Saint-Étienne. En fait, j'ai l'impression que Ali c'est moi. Si jamais j'avais pas eu le succès des Sauvages, c'est un peu moi, un peu loser quoi. C'est un peu ça Ali. Mm-hmm. C'est ça la vérité. Vous me faites dire des vérités, Philippe.
C'est vrai. C'est beau, on les gardera, on les réécoutera dans 10 ans. Ce gars, finalement, parce que vous réappropriez beaucoup de l'histoire de l'Algérie dans ce livre, et toute cette partie finalement consacrée au 17 octobre 61, ouais. À la colonisation. Et on sent que lui, c'est quelque chose qui ne l'a pas intéressé dans la première partie de sa vie. Et puis, en grandissant, ça devient important pour lui, toute cette histoire.
Ouais, en vieillissant, on se demande d'où on vient quand même. Moi aussi, je me demande d'où je viens. Comment ça se fait que, en fait, je me dis des fois comment ça se fait que je suis né en France, pas tout à fait français. C'est-à-dire, comment ça se fait? Ça interroge. Comment ça se fait qu'au moment des attentats de 2015, j'ai à ce point eu le sentiment de pas être chez moi dans mon propre pays, que j'étais regardé comme un terroriste potentiel, que j'avais une barbe, on me disait mais rase ta barbe, je disais non je rase pas ma barbe. Je me dis comment ça se fait, d'où ça vient tout ça, et je me suis interrogé et ça vient d'une date en fait. Et cette date elle est toute bête, hein, c'est 1832. C'est le moment en fait où les Algériens, on n'est pas devenus français par choix, on n'a pas décidé, on n'a pas immigré en France. C'est pas comme ça que ça s'est passé du tout. C'est les Français qui sont venus, qui ont fait ce qu'on appelle une colonisation de peuplement, ça veut dire qu'ils ont voulu faire un grand remplacement. Ils ont voulu remplacer la population algérienne par une population de colons français. Donc c'est ce qui s'est passé. Donc c'est la raison pour laquelle la France et l'Algérie sont à ce point indissociablement liées. C'est parce que la France est allée en Algérie et qu'elle a voulu que ce soit la France. Donc la colonisation, c'est pas innocent. Et c'est la raison pour laquelle, bien des générations plus tard, je me retrouve à naître à Saint-Étienne. C'est-à-dire qu'on a trop tendance à dire les immigrés. Quand on parle de nous. Alors moi, je suis la troisième génération d'immigrés. Et donc, je fais la blague à un moment dans le bouquin, et la quatrième génération d'immigrés, et quand est-ce qu'on s'arrête de compter? Enfin, c'est la génération de mes enfants, ça va être la quatrième génération d'immigrés. Bon, moi, j'habite aux États-Unis, donc ça marche plus. Mais ça va être la quatrième génération d'immigrés. Et je me dis, c'est un problème qu'on compte encore après 3, qu'on compte encore après 2, c'est bizarre, en fait. Ça veut dire qu'il y a une grève qui s'est pas passée.
C'est vrai qu'on compte toujours en termes de génération, effectivement.
Mais c'est pas normal, on devrait pas. On compte pas les Italiens au bout de la deuxième génération, on compte plus en termes de. On compte plus du tout. Enfin, au bout de la première génération, ça suffit, les gens sont intégrés, voilà. Pourquoi? Parce qu'ils sont chrétiens, parce qu'ils sont catholiques, voilà, parce qu'ils sont pas musulmans, peut-être, c'est ça. Peut-être que c'est autre chose, je sais pas. Mais moi, ma théorie, c'est que c'est l'Algérie, c'est que c'est l'angle mort du roman national français. C'est ce qu'on n'arrive pas à regarder en face. Qu'on réduit à la guerre d'Algérie, parce que c'est facile une guerre, il y a des méchants de chaque côté, dans les guerres, il y a des exactions, quoi. Alors quand on dit la torture de l'armée française, il y a les défenseurs de l'OAS qui peuvent dire oui, et le FLN qui va. Donc évidemment, il y a des. Et après, voilà, ça permet à des gens idiots de faire des films idiots, où en gros, chaque camp a son. Mais il ne faut pas réduire le problème à la guerre d'Algérie. La guerre d'Algérie, c'est un micro-phénomène. La guerre d'indépendance, d'ailleurs. Non, ce qui est l'indépendance, c'est pourquoi? Parce qu'il y a eu une colonisation et que ça a duré 130 ans et que ça a influencé les représentations. Un historien que j'aime beaucoup, Pascal Blanchard, le dit. Il dit la Révolution française a duré 3-4 ans, un peu plus si jamais on est généreux. Elle continue aujourd'hui d'être mobilisée dans nos représentations quotidiennes. Il y a encore des gens qui pendent, là récemment, des gens qui pendaient la tête de Macron au bout d'une pique. Et donc ça a influencé les représentations, c'est un peu le peuple régicide. C'est comme ça aussi que la France se voit. Mais la France ne se voit jamais comme ce qu'elle a fait pendant 130 ans dans un pays étranger, qui est la colonisation, qui est un crime. C'est extraordinaire que quelque chose qui a eu à ce point, vous vous rendez compte, 130 ans de la vie d'un pays, et un pays qui juste s'étendait jusqu'à où il y avait un régime particulier pour d'apartheid et d'indigènes. Enfin, c'était des indigènes. C'est extraordinaire à quel point ça a influencé les représentations. Après, bien des générations plus tard, des Blancs, quand ils voient un Arabe, ils ont dans la tête des vieilles images, un peu, contre lesquelles ils luttent, parce qu'on lutte contre nos représentations. Mais malgré tout, elles sont là.
Donc, ça elles se transmettent de génération en génération, ces images. Parce que là, on parlait de la guerre d'Algérie, mais les générations qui ont fait la guerre d'Algérie sont en train de disparaître. En tout cas, celles qui étaient au pouvoir, on l'a vu avec le président, par exemple, Chirac, bon, c'était Bouteflika. Est-ce que finalement, ça va continuer, cette question de la guerre d'Algérie en France, au-delà, avec les nouvelles générations?
Je ne sais pas. Moi, ça ne m'étonnerait pas que Macron essaie d'en faire un moment de son mandat. Le moment Chirac, un peu Veldiv. Qu'il parle de la guerre d'Algérie. Parce qu'il voit bien, il n'est pas... Je pense qu'il y a un gain politique pour lui.
Si il y a toujours, un truc à faire.
Ouais. Non, mais là, en l'occurrence, que ce soit un moment de son mandat, parce que c'est ou ça, ou il va sur le terrain de l'extrême droite, en gros, en disant ce qu'il a plutôt tendance à faire pour l'instant. Aller sur le thème de l'immigration, aller sur le thème du communautarisme des musulmans, on va chercher des listes communautaires en Seine-Saint-Denis, je ne sais pas trop quoi, et on monte en épingle en faisant croire que le problème du communautarisme en France, c'est celui des musulmans. Alors que le problème du communautarisme, c'est celui de ceux qui ont le pouvoir. C'est la communauté majoritaire qui... le problème, c'est les discriminations. C'est ça le vrai problème. C'est l'exclusion. C'est pas le grand remplacement, c'est la grande exclusion. C'est ça le problème.
Pour faire émerger la thématique dans votre livre, par exemple, il y a un sondage qui sort un jour. 40,4% des habitants de l'Allier seraient arabo-musulmans. Voilà. Oui. Et ça met le feu aux poudres.
Oui, ça s'accompagne d'une vidéo où on voit des gens qui... en gros, c'est une vidéo, un reportage sur l'Allier, sur les places des marchés, dans les petits villages, dans le Bocage. C'est un département très rural, l'Allier. Il y a à peu près 300 000 habitants, c'est pas un gros département. Et en France, on pratique pas les statistiques ethniques. Donc on peut pas savoir combien... les gens ne se déclarent pas par rapport à leur origine, à leur race, ou quoi que ce soit. Donc c'est pas... c'est un faux sondage, c'est une fausse vidéo, en fait, où on fait croire que le département est rempli d'Arabes. C'est des gens d'extrême droite qui ont imaginé ça, et ils le font. Sauf que c'est faux, mais comme tout le monde l'a vu, tout le monde y croit. Donc ça va créer dans le pays, ce que je raconte c'est ça, c'est un pays aussi dont la santé mentale se dégrade à vitesse grand V, parce qu'on peut plus savoir quoi croire. Les vidéos vraies et les vidéos fausses sont devenues indiscernables. Donc,
voilà, c'est le sujet du livre, on appelle ça un deepfake.
Ouais.
Alors deepfake, ça veut dire quoi exactement?
Ça vient de, en gros c'est un mot qui signifie vidéo truquée par l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, elle permet d'analyser très très vite des milliards de données, notamment des données audiovisuelles, notamment toutes les vidéos YouTube, par exemple, elles permettent d'aider à certains robots, l'intelligence artificielle, des algorithmes, les aider à comprendre les images de façon de plus en plus fine et pouvoir, par exemple, retoucher les vidéos, les améliorer, voire les éditer et les changer et les synthétiser complètement. Donc c'est en gros, c'est un truc très... Ça va arriver, les deepfakes. Moi, je pense que les prochaines élections...
Ça existe déjà un peu déjà, mais...
Pour l'instant, c'est pas très crédible, c'est pas encore parfait.
Voilà.
Mais comme chaque jour, l'ordinateur s'améliore, en gros, c'est évident qu'un jour, on pourra fabriquer des fausses vidéos de vous en train de faire des choses absolument horribles. Et vous serez obligé, si vous n'avez pas d'alibi, comme on vous aura vu, vous, que ce sera votre visage, voilà, on sera obligé d'y croire.
Comme je ne suis pas sur des vidéos, que je ne suis pas sur les réseaux sociaux, parce qu'il faut quand même alimenter sa part d'image qui existe, quand même.
Pas du tout, c'est ça qui est dingue.
Ah non.
C'est que moi, ce que j'imagine, c'est que c'est des mirages. C'est qu'on n'a même plus besoin d'avoir des images existantes.
Ça s'appelle des mirages dans votre...
Des mirages, c'est-à-dire qu'on fabrique des vidéos de synthèse qui sont d'une perfection telle qu'on ne peut pas savoir que c'est faux. On ne peut pas. Je peux vous faire vous, exactement vous, parce qu'en fait, bon, alors vous, si vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux, ça ne marche pas. Il faut y trouver des gens qui sont sur les réseaux sociaux.
Ça, moi, je n'alimente pas, je n'ai pas de vidéos.
Mais les gens, ils laissent d'eux-mêmes énormément d'images, de vidéos, de traces. Surtout, les jeunes générations, elles documentent leur propre vie de façon folle. Quoi. Donc ça donne beaucoup de matière pour que l'ogre qui fabrique les deepfakes puisse s'alimenter.
On l'a vu, pour les dernières élections aux États-Unis. En tout cas, il y en a eu en France aussi. Alors là, c'était les fakes, c'était les
fake news.
On l'a vu pour Trump, en tout cas dans le cas de Trump. Il y en a eu aussi contre Macron, elles ont été plutôt bien contrées, notamment sur ses comptes étrangers. Ils ont essayé de balancer.
Je me souviens, les Macron Leaks.
Les Macron Leaks. Mais en tout cas, ça, ça joue et ça a de l'importance dans les cas d'élections.
Les élections, maintenant, on est obligé de considérer que le faux joue une part presque aussi importante que le vrai. Et donc, il faut, les hommes politiques, je le vois beaucoup aux États-Unis, pardon, je vois beaucoup aux États-Unis où on voit dans chaque équipe les candidats, ils ont des conseillers en communication, mais ils ont aussi des gens qui sont chargés de contrer uniquement les fake news. C'est-à-dire des gens qui sont chargés de, on dit tellement de mensonges.
Le fact checking,
exactement.
Ouais. Mais normalement, s'il y a des journalistes, on n'a pas besoin de le faire. Vous voyez. C'est ça. C'est parce qu'aujourd'hui, l'information est produite par des gens qui ne sont plus des journalistes.
Exactement. Et comme ils peuvent pas vérifier les sources et comme ils ont pas, c'est pas leur travail, donc ils sont obligés. Enfin, mais c'est vraiment, il y a une phrase de Hannah Arendt dans Les origines du totalitarisme qui est géniale où elle dit le sujet idéal du totalitarisme, c'est pas le nazi convaincu ou le stalinien enflammé. Elle dit le meilleur sujet du totalitarisme, c'est le citoyen qui ne peut plus faire la différence entre les faits et la fiction, entre le vrai et le faux. C'est ce cauchemar-là que j'ai voulu raconter. C'est comment d'un coup le vrai et le faux jouent un rôle égal dans nos vies, en fait. Comment on fait? À un moment, j'ai une image, je dis, c'est comme une invasion de sauterelles, mais la moitié de ces sauterelles sont des hologrammes. Donc, en gros, c'est pas des vraies sauterelles. Donc, on a quand même des raisons d'avoir peur, mais la peur, le danger est magnifié.
Mais c'est vrai que les gens n'ont pas forcément ce discernement, ce recul nécessaire pour faire la différence. Si on l'a vu, c'est que c'est vrai.
Ouais. Parce que l'œil est plus fort que le cerveau. C'est la grande leçon des deepfakes. C'est qu'une fois que l'œil a vu quelque chose, l'œil y croit. Et le cerveau peut toujours lui dire, mais non, méfie-toi de... En gros, on n'a pas de Jiminy Cricket qui nous dit, méfie-toi de l'influence de tes sens. On est obligé, quand on voit quelque chose, on y croit.
Alia, votre Aurine, Aurel, a trouvé l'antidote. Mais là encore, on le voit finalement, même une bonne idée, ça peut toujours se retourner contre vous-même, même si vous avez la meilleure intention du monde.
Mais c'est parce qu'elle est naïve aussi, je pense. Elle est très intelligente d'un point de vue technique. Mais par contre, elle n'est pas capable de réagir quand son application, qui est censée être un remède, en fait, finit par devenir plus grave que la maladie. Elle se rend pas compte au bout d'un moment. Elle s'entête. Je crois que c'est un personnage intéressant parce qu'elle est vraiment ambiguë. Hein. On la voit vraiment à plusieurs états. Elle change. Moi, c'est quelqu'un, vraiment, j'ai beaucoup d'admiration pour ce personnage et même pour son entêtement.
C'est pour ça que vous citez le cardinal de Reims en début.
De Reims, ah oui. Ouais. On ne sort de l'ambiguïté, ouais. Dans la vie privée comme dans la vie publique, on ne sort de l'ambiguïté qu'à son propre détriment. C'est-à-dire que c'était la phrase préférée de Mitterrand qu'il utilisait pour dire « ne vous engagez jamais ». Il disait « ne disait le minimum », en gros. Il disait « dites le minimum ».
J'avais beaucoup lu Machiavel, entre autres.
Bah là, c'est une citation qui est un peu machiavélique. Elle peut être lue comme un peu machiavélique. Ne jamais sortir de l'ambiguïté. Et c'est un peu ce qu'on reproche à Alia. En fait, c'est aussi, ça prend un autre sens dans le roman. Dans le roman, c'est aussi ce qu'on reproche aux Arabes. C'est-à-dire, notamment quand ils prennent position, notamment là, à un moment, moi, j'imagine des élections où il va y avoir une liste un peu communautaire, une liste avec que des Algériens dedans, en fait. C'est des notables, c'est des médecins, c'est des avocats, c'est un peu des bourgeois. Hein, et ils font une liste comme ça en disant « on en a marre », c'est après le sondage dont on parlait tout à l'heure, il dit « on en a marre de se prendre des sauts de merde sur la tête tout le temps, on en a marre d'être appelés des musulmans alors que c'est juste une partie de notre identité, on va s'organiser politiquement pour se défendre ». Et évidemment, on imagine dans un pays comme la France, où normalement la représentativité ethnique des élus... ça n'a jamais fait question, on ne s'est jamais demandé. Donc évidemment, ça crée un choc. Quoi.
Sabri Louata est l'invité du Book Club. Aujourd'hui, je rappelle, Sabri, le titre de votre roman s'appelle 404. L'éditeur, c'est Flammarion.
Le Book Club revient dans un instant. Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Et c'est Sabri Louata qui est avec nous aujourd'hui à l'occasion de la publication de votre nouveau roman, s'appelle 404, aux éditions Flammarion. Donc on parlait d'Ali tout à l'heure, il y a beaucoup de vous quand même dans Ali. Un gars qui a fréquenté les écoles catho, qui après a fait une prépa.
C'est vrai.
Qui a connu un chagrin d'amour à Lyon et c'est pour ça qu'il n'aime plus Lyon. C'est vous.
C'est vrai, c'est moi. Bon, vous avez raison, je suis démasqué. Mais je ressemble aussi un peu à Kader quand même. J'ai l'impression que notre génération, on est un peu plus... Moi, Kader, il pense à ça. Il pense à la génération de son père, qui est un magasinier, qui a le dos cassé, le pauvre.
Sa mère était femme de ménage.
Donc il vient d'un milieu très pauvre, à Vénissieux, dans la banlieue lyonnaise.
Mais il est charmeur. Il est génial.
Il se retrouve. Ah non, mais il est pas du tout.
Le gars, quand même.
Mais il est brillantissime. Ouais. C'est pas du tout un type qui se victimise. Hein, c'est pas du tout. Au contraire. C'est juste. Mais il se souvient. Il n'oublie pas. C'est-à-dire que Il se souvient comment les gens regardaient son père, il se souvient quand il arrive en prépa, comment le fait qu'il était boursier, comment on lui parlait parce que c'était un boursier. Donc il n'oublie pas.
Mais vous aussi vous étiez boursier.
Oui, je sais, c'est pour ça qu'il y a, il y a aussi beaucoup de moi dans Kader.
Comment vous regardez finalement quand vous arriviez à Lyon ?
De haut. Mais c'est après, on peut dire que c'est le jeu de la société. Hein. Je viens d'un milieu inférieur en fait. Il faut regarder aussi la société comme elle est. C'est ça que je voulais dire tout à l'heure. C'est qu'il faut regarder la société comme elle est. Et la société comme elle est très défavorable aux gens qui partent avec plein de. Souvent les origines dont on dit on est fier et tout ça, c'est bien la fierté de ses origines. Mais faut pas être naïf. C'est aussi un handicap quand on veut s'élever dans la société.
Mmh. Aujourd'hui, est-ce que le succès ressemble à ce que vous auriez pu imaginer ?
Le succès ?
Ouais. Quand je dis du succès, aujourd'hui, quand on fait une série
qui
a quand même été adulée sur Canal.
Ouais, non, le succès, c'est quand on est libre, en fait. C'est quand j'ai la possibilité de ne pas faire autre chose que ce que je veux faire. C'est-à-dire écrire des romans ou écrire des séries. J'ai la chance, j'ai pas besoin de faire autre. J'ai pas besoin de temps en temps d'aller. J'ai pas besoin d'être prof à côté, j'ai pas besoin d'être. Je vis de ma plume, quoi.
Oui, d'en vivre.
Voilà. Et ça, c'est une chance énorme. Et c'est une liberté énorme. Et je pense que. J'ai été très pauvre et je me souviens que c'est impossible d'écrire au RSA, quoi. C'est impossible d'écrire. Donc, on est obligé de travailler. Et quand on travaille, je suis désolé, je pense qu'on écrit des. C'est triste hein, ce que je dis, mais mes écrivains préférés du passé, c'est souvent des rentiers ou des gens très très riches. Tolstoï, par exemple. Tolstoï, c'était un propriétaire terrien, il était richissime. Proust, il avait.
Qu'est-ce que vous aimez chez Tolstoï ?
Oh, c'est la façon dont les gens y vivent sur le papier. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de brûlant. Quand on ouvre un livre de Tolstoï, d'un coup, on a l'impression d'être dans la même pièce que les gens. Et ça, c'est pas. Il n'y a pas beaucoup d'écrivains qui y arrivent. Et c'est subtil, hein, c'est pas.
Il y a des gens qui disent que vous relisez Anna Karenine tous les deux ans.
Ouais, il faut que je le fasse d'ailleurs. Bah, voilà ce que je vais faire la semaine prochaine. Merci.
C'est ça. j'écoutais un auteur la semaine dernière, tiens, sur France Q, qui disait « Je relis Belle du Seigneur tous les deux ans ».
Ah oui, moi j'ai jamais lu Belle du Seigneur.
Et alors du coup, je l'ai lu. Parce que je l'avais jamais lu. C'est 5000 pages hein, quand même.
Et vous allez le relire dans deux ans ou pas ?
C'est bien écrit.
Oui.
C'est écrit en très bon François, en très bon français. Ah oui. Mais voilà, c'est costaud. Je me suis dit, mais comment, qu'est-ce qu'on fait qu'on puisse relire un livre alors que finalement on connaît le début et qu'on connaît la fin ?
Mais alors, c'est une très bonne question. C'est parce que les grands romans n'ont pas de début, pas de fin. Et les grands romans, ils se terminent pas. Les grands romans, ils donnent envie de les revisiter après. Anna Karenine, on a juste envie de passer du temps avec elle, en fait. On a envie de passer du temps avec Lévin, on a envie de passer du temps avec Kitty, on a envie de passer du temps avec. Avec tous ces personnages, c'est parce qu'ils sont irrésistiblement vivants. Ils sont comme tous les humains, c'est-à-dire ils ont une part sombre en eux, ils ont une part lumineuse, un mélange d'ombre et de lumière comme nous tous. Mais ils sont vivants de façon singulière. Et c'est des gens qui existent un peu dans l'éternité grâce à ça. On a envie de passer du temps avec des. Je pense que c'est la raison pour laquelle on aime encore les stars. C'est pas complètement mort le système des stars d'Hollywood, des stars du cinéma. J'en ai vu un peu là avec en faisant Les Sauvages. J'ai rencontré genre, c'est pas des stars, c'est pas Léonard DiCaprio, mais Roche Dizem quand même, il y a une présence, un truc, un magnétisme.
Il dégage.
Et voilà, et Marina Foïs aussi, Fianso, Sofiane, ouais, ouais. Dali Ben Salah, qui est dans le prochain James Bond, qui joue le rôle de Fouad dans la série. C'est des gens, on est.
Ouais, Marina Foïs, c'est incroyable.
Ils vivent un peu dans l'éternité. Comme on les voit sur. Comme ils existent, comme c'est des célébrités, ils vivent un peu comme s'ils étaient dans un autre plan que nous. C'est très généreux, les acteurs, ça donne de leur énergie, de leur corps un peu. Nous, c'est pas fin. Moi, je suis un écrivain, j'ai pas envie d'être regardé par des millions d'yeux. Et eux, ils s'offrent comme ça à des millions
d'yeux. Vous n'écrivez pas pour être connu, en fait ?
Ah non, pas du tout. Ouais, alors, un écrivain, c'est juste le nom qu'on donne à la personne qui a écrit une œuvre. Ce qui compte, c'est l'œuvre. Après, je sais que ça unifie, ça aide à vendre. Et j'ai envie que mes bouquins ils se vendent, j'ai envie que mes bouquins ils soient lus. Enfin, oui, bien sûr. Mais j'ai pas envie de. Il y a des gens qui ont des intentions impérialistes en écrivant des livres. C'est-à-dire qu'ils veulent que leurs idées se diffusent dans le maximum de. Et c'est en fait, c'est des gens pour qui l'écriture du roman n'est que la première étape d'un projet où l'étape la plus importante est la promotion du livre. Donc, moi, c'est le contraire. J'ai fini de travailler, là, je suis là avec vous, mais enfin, je suis pas.
Enfin, non, vous avez fini de travailler jusqu'au prochain livre.
Oui, d'accord, mais je veux dire, 404, le moment le plus important pour moi, c'était de l'écrire. C'est pour me libérer de tous les démons qui me hantaient quand j'ai commencé à l'écrire. Et maintenant que j'en suis libéré, j'en parle avec des distractions, mais je suis plus la personne qui a écrit le roman, qui était hantée par tous ces personnages-là, parce que on le dit pas, mais le roman, il y a une violence dans le roman qui tient aussi au fait, à mon avis, qu'on passe beaucoup de temps avec peu de personnages, en fait. Donc on les connaît bien, je pense.
Voilà. Et beaucoup d'Algériens.
Que des Algériens, même.
Ouais.
que là.
Je veux dire, je connais quasiment pas d'auteur aujourd'hui qui fait vivre autant de personnages algériens que vous l'avez fait. La fois dans Les Sauvages et à la fois dans 404.
Non, mais pour moi, regardez les Algériens.
À part la présidente de la République
qui n'est pas nommée, qui n'est pas un personnage. Non, tous les personnages, ils appartiennent un peu à une famille, malgré tout. Mm. Voyez et, au sens. Donc, il y a la famille d'Alia.
C'est Marine Le Pen jeune, un peu.
Non, pas elle. Je parle des personnages principaux. Il y a Alia qui est un personnage. C'est des personnages, c'est une famille. C'est un peu pour ça aussi que c'est que des Algériens. Mm. C'est, je suis quand même. Je porte, en gros, je
mets une loupe. Algérien, Kabyle, voilà.
Oui, ils sont tous un peu. Alia, elle est Kabyle, voilà. Ils sont,
Ali aussi,
ouais. Kabyle, lui comme moi de Pchaïa. Donc oui, c'est des Algériens, quoi. C'est un peu en même temps, c'est des Français. Je dis des Algériens, c'est pas vrai, c'est pas des Algériens, c'est des Français. Mais c'est en France, ils sont vus plutôt comme des Arabes ou des musulmans. Moi, j'aime bien dire Algérien parce que j'aime bien quand on dit d'origine algérienne, par exemple. J'aime bien l'idée qu'on vienne de quelque part de spécifique. J'aime pas quand on est d'un concept, l'immigration. J'aime pas quand on dit issu de l'immigration. Je l'ai dit tout à l'heure, et d'un coup, ça a buzzé dans mon oreille. Ça sonnait mal, quoi. Je me suis dit, on est issu d'un endroit. Un endroit précis. En l'occurrence, ils sont d'origine algérienne.
Vous aimez les séries?
Oui, j'aime beaucoup.
Pourquoi vous n'écrivez pas que des séries, en fait, aujourd'hui?
Non, parce que j'aime bien. Non, parce que mon truc préféré, ça reste d'écrire des romans, quand même.
C'est-à-dire que pour vous, la série passe d'abord par le roman?
Ouais. Ouais. Moi, mon truc préféré, c'est d'écrire un roman et que ça fasse l'objet d'une adaptation, de telle façon à ce que d'autres personnes apportent leur subjectivité. Sur Les Sauvages, j'ai vu comme Rebecca, elle a apporté plein de choses que moi, qu'il n'y avait pas dans les romans et qui étaient géniaux, en fait.
Sans elle, la série n'existait pas.
Ah oui, c'est sûr. Sans elle ou sans moi. Enfin, en gros, elle a été créée par nous deux, coécrite par nous deux et réalisée par elle. Et elle a mis toute sa force et toute sa force de travail. Parce que c'est réalisé toute seule 6 épisodes, c'était énorme. Enfin, c'est une prouesse.
Quelles sont les dernières séries que vous aimez? Maintenant, vous vivez aux États-Unis, donc en plus, vous êtes dans le berceau. Même si aujourd'hui, les séries sont mondialisées.
Ouais.
Mais quelles sont les...
Non, alors, j'appelle solennellement tous les gens qui écoutent cette émission. Je ne sais pas combien de millions vous avez d'auditeurs, mais j'appelle tous ces millions-là à pirater, à télécharger illégalement Watchmen de HBO, qui est la plus grande série de la décennie.
C'est fini les Sopranos. Alors, c'était la décennie d'avant, les Sopranos.
Ouais, ouais.
Non, il y a 20 ans peut-être.
Non, la meilleure série de la décennie 2000, c'est les Sopranos. La meilleure série de la décennie 2010, c'est The Leftovers, pour moi, qui est une série de HBO. Et la meilleure série de la décennie 2020, c'est Watchmen, celle que je recommande maintenant. Ce qui est indépassable. Je ne peux pas trop dire pourquoi, mais...
T'as vu Succession?
Ah oui, j'adore.
Sur HBO aussi,
ou super
quoi?
Succession, ouais. Mais pas aussi bien que Watchmen. Qui met le doigt sur là où ça fait mal, sur la race en Amérique. C'est un courage, et le tout avec des super-héros. C'est-à-dire que l'histoire la plus excitante du monde, c'est-à-dire qu'on la regarde, c'est des vigilantes et tout ça, ça se passe dans l'Oklahoma rural, et en même temps c'est magnifiquement filmé. C'est ultra excitant, donc des flics comme ça qui mettent des masques pour protéger la population, parce que sinon on va les attaquer. Et la plupart des flics sont noirs, c'est trop bizarre. Et ça aborde la question de la race, d'une façon inouïe, des violences policières. Ça retourne tout, et le tout en racontant des histoires. Bon, je ne peux pas trop en dire, mais c'est du génie.
On ne va pas spoiler, comme on dit.
Voilà, oui.
Watchmen, sur HBO. On va terminer avec Hate Mengelet.
Oh, génial.
Voilà, c'est pour vous, c'est pour faire plaisir. Merci. Parce qu'on ne passe peut-être pas assez sur Beurre FM.
C'est vrai, vous ne passez pas assez à Hate Mengelet.
Aujourd'hui, on est formaté, donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on écoute moins les chansons qui étaient longues comme avant.
Ouais.
On a moins le temps, comme tout.
Ah, c'est dommage.
J'ai le temps de...
Vous devriez le prendre ici.
Oui, exactement. En tout cas, on va l'écouter pour terminer ce dimanche. C'était un plaisir de vous avoir aujourd'hui. Sabri Louata, je rappelle le titre de votre nouveau roman. C'est 404 chez Flammarion. À bientôt.
Merci beaucoup, Philippe.
اسمي هجن عاوي spiel. Ether geht bad ya kina shwara dik tsbek thid w ba'dher jira thani nastma'at nit tsawi lsbah ma dik sak win hamd lak thuba thqiran mna ma gis hiddi wrth tsamna ya habib rja li ghadi thmurathi w mdouki rbah hda gharib mna ma I'm not afraid.